La dernière chance d'être reine.
Le Dominicain en disgrâce arriva aussitôt, tout agité d'être mandé en particulier par un si haut baron. « Mon frère, lui dit d'Artois, vous connaissez bien Madame Marguerite, puisque vous la confessez. Quel est le faible de sa nature ?»«
La chair, monseigneur, répondit le chapelain en baissant modestement les yeux.
« Grande nouvelle, en vérité. Mais encore, y a-t-il quelques sentiments chez elle sur lesquels on puisse peser pour lui faire entendre certaines choses qui sont dans son intérêt comme dans celui du royaume ?»«
Je ne vois pas, monseigneur. Je ne vois rien en elle qui puisse fléchir, sauf sur le point que je vous ai dit. Cette princesse a l'âme dure comme une épée, et même la prison n'en a pas émoussé le tranchant. Ah, ce n'est point, croyez-le, une pénitente facile. »
Les mains dans les manches, le front incliné, il essayait de se montrer à la fois pieux et habile. Il n'avait pas été tondu récemment et son crâne, au-dessus de la couronne de cheveux, se couvrait d'une rase fourrure beige. Son froc blanc était marbré de taches de vin mal effacées au lavage. D'Artois resta silencieux un instant, se frottant la joue parce que la tonsure du chapelain lui faisait songer à sa barbe qui commençait à pousser. « Et sur le point que vous m'avez dit, reprit-il, qu'a-t-elle trouvé ici ?» pour satisfaire sa faiblesse, puisque c'est ainsi que vous nommez cette sorte de vigueur.
À ma connaissance, rien, monseigneur.
Berzumé, il ne lui fait jamais de visite un peu longue ?
Jamais, monseigneur, je puis en répondre, s'écria le chapelain.
Et avec vous ?
Oh, monseigneur !
Allons, allons, dit d'Artois. Cela s'est déjà vu, et l'on connaît plus d'un de vos pareils qui, son froc ôté, se sent homme autant qu'un autre. Pour ma part, je n'y vois pas offense, et même, pour vous dire franc, j'y verrais plutôt matière à louange.
Et avec sa cousine, les deux dames ne se consolent point un peu entre elles ?
Monseigneur, dit le chapelain, affectant de plus en plus un pieux effarouchement, c'est un secret de confession que vous me demandez là.
D'Artois lui adressa une bourrade amicale. Allons, allons, messire chapelain, ne plaisantez point, sinon vous a mis des servants de prison. Ce n'est pas pour garder les secrets, c'est pour les répéter. À qui de droit ?
Ni Madame Marguerite ni Madame Blanche ne se sont jamais accusées à moi d'être coupable de rien de semblable, sinon en rêve, dit le chapelain en baissant les yeux.
Ce qui ne prouve pas qu'elles sont innocentes, mais qu'elles sont prudentes. Vous savez vous écrire ?
Certes, monseigneur.
Ah bah, fit d'Artois d'un air étonné. Tous les moines ne sont donc pas d'aussi fiers faits ignorants qu'on le dit. « Alors, mon petit frère, vous allez prendre du parchemin, des plumes et tous les ingrédients qu'il faut pour gratter une lettre et vous tenir au bas de la tour des princesses, prêt à grimper dès que je vous appellerai. »
Le chapelain s'inclina. Il avait quelque chose à ajouter, mais d'Artois, s'enveloppant de son grand manteau d'écarlate, sortait. Le chapelain courut derrière lui.
« Monseigneur, monseigneur, dit-il d'une voix pleine d'onction, auriez-vous la grande bonté, si ce n'est point vous offenser, que de vous faire pareille requête ?» Auriez-vous l'immense bonté ?
Quoi donc ? Quelle bonté ?
Eh bien, monseigneur, de dire à frère Renaud, le grand inquisiteur, s'il vous arrive de le voir, que je suis toujours son bien obéissant fils, et aussi qu'il ne m'oublie pas trop longtemps dans ce château fort où je sers de mon mieux puisque Dieu m'y a mis, mais j'ai quelques mérites, monseigneur, ainsi que vous l'avez pu voir, et je souhaiterais qu'on leur donnât un autre emploi.
J'y penserai, je lui dirai, répondit d'Artois, qui savait déjà qu'il n'en ferait rien.
Dans la chambre de Marguerite, les deux princesses achevaient leur toilette. Elles venaient de se laver longuement devant le feu, faisant durer ce plaisir retrouvé. Leurs courts cheveux étaient encore emperlés de gouttelettes, et elles avaient juste revêtu de grandes chemises blanches, raides d'empois, trop vastes et fermées au col par une coulisse. Quand la porte s'ouvrit, les deux femmes eurent un même mouvement de recul pudique.
« Ah, mes cousines, dit Robert, ne vous souciez point, restez donc ainsi, je suis de la famille. Et puis ces chemises vous cachent mieux que les robes dans lesquelles vous vous montriez naguère. Vous avez tout juste l'air de petite nonne.
Mais vous offrez meilleur aspect que tout à l'heure et les couleurs commencent à vous revenir. Avouez que votre sort n'a pas tardé à changer depuis que je suis arrivé. »
« Oh oui, merci mon cousin, s'écria Blanche.
La pièce était transformée. On avait installé un lit, deux coffres qui formaient banc, une chaise à dossier, des tréteaux et une table sur laquelle étaient disposées les écuelles, les gobelets et le vin de Berzumé. Un cierge était allumé, car bien que midi n'eût pas encore sonné à la grêle cloche de la chapelle, la lumière de ce jour neigeux n'éclairait déjà plus l'intérieur de la tour.
Dans la cheminée flambaient de lourdes bûches dont l'humidité s'échappait par les bouts, en petites bulles, avec un bruit suintant. Aussitôt après Robert entrèrent le sergent Lalaine, l'archer Gros Guillaume et un autre soldat, qui montaient un potage épais fumant, un gros pain brillait rond comme une tourte, un pâté de 5 livres dans une croûte dorée, un lièvre rôti, des quartiers d'oie confites et quelques poires crassanes que Berzumet, en menaçant de faire raser le bourg, avait pu dénicher dans les andelys.
« Comment ? » s'écria D'Artois. « Est-ce tout ce que vous nous portez quand j'avais demandé bonne chère ?»«
C'est miracle encore, monseigneur, qu'on ait pu trouver cela par ce temps de famine, » répondit Lalaine.
« Temps de famine pour les gueux, peut-être, qui sont si fainéants qu'ils voudraient que la terre produise sans qu'ils aient à la creuser, mais non pour les gens de bien. Je n'aurais jamais fait si petit menu depuis le temps que je têtais au sein. »